Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
2011, il préside la fondation Jean-Jacques Lafont, Toulouse School of Economics, qu'il a contribué à créer et à diriger de 2006 à 2009. L'école d'économie de Toulouse est ainsi devenue, sous son impulsion et celle de Jean-Jacques Lafont, un des deux meilleurs pôles européens de recherche en sciences économiques. Ses recherches s'appuient sur la théorie des jeux et la théorie de l'information. Elles portent notamment sur l'économie industrielle, sur la régulation des industries de réseau et du système bancaire, et sur les liens entre l'économie et la psychologie. C'est d'ailleurs le thème qu'il a choisi pour cette carte blanche. De l'homo economicus à l'homo socialis, Jean Tirole nous parlera d'économie comportementale, une science qui étudie le comportement des êtres humains dans différentes situations économiques. Voilà, je lui laisse la parole.
Très bien, merci beaucoup Priscilla et merci beaucoup pour l'invitation. Le CNRS m'a demandé de parler d'un grand défi en économie. Il y en a beaucoup. Notre savoir a énormément progressé depuis 20 ans et plus il progresse, et évidemment plus de questions se posent. Et donc j'avais un peu l'embarras du choix et j'ai décidé de parler un petit peu d'un très grand défi qui va être le défi le grand chantier des sciences sociales et humaines au 21e siècle, qui va être un des grands défis de la science économique et plus généralement des sciences sociales et humaines au 21e siècle, ça va être d'intégrer différentes sciences qui, jusqu'au 20e siècle, étaient des sciences qui avançaient ensemble et se sont séparées. Mais quand on y réfléchit bien, le psychologue, le sociologue, le juriste, le politologue, l'économiste ou l'historien étudient les mêmes personnes, les mêmes groupes. Et donc on ne peut pas avoir différentes sciences. À un moment ou à un autre, il va falloir unifier un petit peu toutes ces sciences. Alors, juste pour rappel, les économistes ont construit leur discipline au 19e et surtout au 20e siècle autour d'un concept très réducteur, mais aussi très, très puissant, qui est l'homo economicus, qui est quelqu'un d'extrêmement rationnel. Alors, rationnel, ça ne veut pas dire que vous avez toute l'information pour décider, bien sûr, mais étant donné l'information limitée dont vous disposez, vous allez prendre des décisions qui vont au mieux de vos intérêts, et c'est ce qui est supposé en général pour les ménages, les décideurs dans les entreprises, les hommes politiques, etc. C'est-à-dire que toute personne est représentée comme quelqu'un qui optimise étant donné l'information limitée dont il ou elle dispose. L'économie moderne est basée sur deux thèmes unificateurs et les applications ont fait, comme je le disais, énormément de progrès dans les 20 dernières années. D'abord la théorie des jeux, d'ailleurs qui au début a été fondée par des mathématiciens, dont Émile Borel, qui était la première médaille d'or du CNRS, et puis von Neumann, bien sûr, et d'autres. Et donc, c'est l'étude de choix de stratégie par des acteurs en situation d'interdépendance, mais aux intérêts divergents. Alors, un petit exemple de jeu très simple, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissez, mais ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Dans le dilemme du prisonnier, il y a deux joueurs, et ces joueurs peuvent soit coopérer, soit adopter des comportements déviants. Et la matrice que vous voyez ici donne les bénéfices de chaque joueur en fonction du comportement de chaque joueur. Donc par exemple, le premier chiffre, ça va être le bénéfice du joueur numéro 1, et le deuxième chiffre, ça va être le bénéfice du joueur numéro 2. Donc par exemple, si tous les deux coopèrent, ils auront 5. Si le joueur 1 dévie, tandis que le joueur 2 continue à coopérer, le joueur 1 a 10, et le joueur 2 a moins 10. Donc un comportement déviant, ça augmente le bénéfice. Et de même, quand le joueur 2 dévie, le joueur 1 a intérêt à dévier lui-même puisque son bénéfice va passer de moins 10 à moins 5. Donc c'est un petit jeu très simple. Je coopère avec vous ou je dévie. Et c'est un jeu d'autant plus simple qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie dominante. C'est-à-dire ce qui est bon pour moi est indépendant de ce que vous voulez jouer, ce que vous allez jouer. Donc je n'ai même pas à réfléchir à ce que vous allez jouer. Ce qui est bon pour moi, c'est de dévier. Voilà, donc c'est un petit jeu très simple. On va voir que ce jeu a énormément d'applications. En fait, même un jeu aussi bête que celui-là a énormément d'applications. Donc c'est un jeu qu'on a joué en laboratoire. Alors vous savez qu'en économie, on a des théories. Et ces théories, comme dans toute science, on les teste. Donc on les teste avec des données économétriques, si on en dispose, et si on n'en dispose pas, ben, il faut faire autre chose. Donc on teste en laboratoire, ou alors dans le monde réel, on fait des expériences pour essayer de voir si les théories sont validées. Alors en pratique, si on donne à des gens ce petit jeu, il y a quand même 15 à 25% qui choisissent la coopération, même si le comportement déviant est un comportement rationnel, puisqu'on augmente son bénéfice toujours en déviant. Et vous voyez très bien que quand il y a une équipe de déviants, c'est très mauvais pour les deux joueurs. Ils ont tous les deux moins 5, alors que s'ils coopéraient, ils auraient tous les deux plus 5. Donc, on a un équilibre, ce qu'on appelle l'équipe de Nash, qui est complètement inefficace, mais tout le monde ne joue pas comme dans cette équipe de Nash, ce qui est prévu par la théorie des jeux, ce qui est prédit par la théorie des jeux. En pratique, il y a quand même une certaine portion de la population qui va coopérer, ce qui est un peu étonnant et on reviendra là-dessus. Alors, ce petit jeu représente beaucoup de choses. Par exemple, si on pense à un cartel du pétrole, le cartel a intérêt à se former et à forcer les pays du cartel à garder des prix élevés ou des quantités basses. Mais c'est vrai qu'en l'absence d'un accord entre les pays, chaque pays a intérêt à augmenter la production. Mais quand il augmente la production, il fait baisser le prix du pétrole. Et on a une espèce de dilemme du prisonnier. Et c'est justement pour ça que les pays forment des cartels. Puisqu'on est dans les cartels, on peut aussi mentionner une réforme récente qui s'est passée en Europe, mais qui est déjà très ancienne aux États-Unis, c'est le programme de clémence. Donc, quand on fait du droit de la concurrence, on veut empêcher évidemment les entreprises de s'arranger, de s'entendre entre elles pour faire monter les prix au détriment du consommateur. Et la question, c'est comment on fait ça? Les cartels peuvent se former, les entreprises peuvent se rencontrer et décider finalement de monter les prix. Et on a ce programme de clémence qui dit simplement que si quelqu'un vient dénoncer le cartel, c'est-à-dire un membre du cartel est le premier à dénoncer le cartel, dans ce cas-là, l'Europe fera preuve de clémence vis-à-vis de celui qui a dénoncé le cartel. On est en train de créer un dilemme du prisonnier. Et ça marche très bien en pratique. C'est-à-dire que la théorie des jeux a des applications très concrètes et ça marche extrêmement bien pour lutter contre les cartels. Un autre exemple de dilemme du prisonnier que vous connaissez bien, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, malheureusement, c'est tous les pays jouent déviants. Alors c'est dans l'intérêt de chaque pays, évidemment, de ne pas réduire sa production de CO2, mais le résultat global pour l'humanité est désastreux. Et là, on voit très bien que ce qu'il faudrait, c'est un accord global mondial sur la stratégie C, c'est on réduit tous notre consommation de CO2. Aucun pays n'a intérêt à réduire le CO2 lui-même, à part quelques actions, évidemment, de relations publiques. Et donc là, on est dans une situation, effectivement, où le jeu non coopératif entre les pays est complètement désastreux pour l'humanité. Donc vous voyez que même un petit jeu comme ça a des applications tout à fait importantes. Donc ça c'est la première théorie, évidemment la théorie des jeux est infiniment plus compliquée que ces petits jeux-là, mais déjà vous voyez qu'un petit jeu comme ceci peut vous donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Alors, la deuxième théorie qui s'est beaucoup développée les 20 ou 30 dernières années, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence ou théorie de l'information, des incitations, des contrats, enfin il y a différents noms, où le sujet, là, c'est l'utilisation stratégique d'informations privilégiées par des acteurs. Donc, en jargon économique, il y a l'aléa moral qui consiste à dire il y a des comportements qui ne sont pas vérifiables, et puis il y a l'antisélection qui provient de l'information privée au moment où on signe un contrat. Et il y a des tas d'applications qui ont été faites en économie. Alors, j'ai mis quelques applications en régulation, en finance d'entreprise, gouvernance, relations interpersonnelles, mais aussi en politique, en sociologie, en psychologie, droit, etc. Donc, ce sont des théories qui sont maintenant devenues complètement classiques. Alors, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le développement de l'économie comportementale. Alors, l'économie comportementale, par rapport à la théorie classique, dit que les gens ne sont pas forcément aussi rationnels, ou en tout cas pas aussi rationnels que le décrit Homo economicus, le modèle de l'Homo economicus. Et on va essayer de relâcher un peu les hypothèses et puis écouter un petit peu les autres sciences, c'est-à-dire écouter la psychologie, écouter la sociologie, etc., afin d'avoir une image un peu plus complète. Donc je fais partie évidemment de ceux qui pensent que l'économie est une science extrêmement puissante et prédictive et peut effectivement aider à la construction de la politique économique, mais il faut aussi comprendre que les hypothèses que font les économistes sont extrêmement réductrices, et donc il faut l'enrichir. Donc il faut aussi écouter les autres sciences, Et donc, depuis quelques années, il y a un courant très fort d'économie comportementale et maintenant aussi de neuroéconomie. Donc, essayer de mieux comprendre les comportements. Alors, il y a beaucoup de branches et je ne vais pas avoir le temps de parler de tout ça. Mais parmi les déviations par rapport au modèle économique classique, il y a une déviation qui est assez classique, c'est les cas où les gens n'agissent pas au mieux de leurs propres intérêts. Donc ça peut être par exemple parce qu'ils ont une préférence trop importante pour le présent. C'est-à-dire qu'on voudrait s'engager par exemple, on voudrait arrêter de fumer mais on n'arrive pas. Donc il y a une volonté de l'individu d'arrêter de fumer mais évidemment on veut toujours arrêter demain, pas aujourd'hui. Et donc c'est le problème de la procrastination, c'est le problème de la drogue, de l'insuffisance d'épargne et d'autres comportements court-termistes. Et nous sommes évidemment tous victimes un petit peu parfois de ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'on voudrait investir plus dans l'avenir, mais la tentation du présent est trop forte. Et d'ailleurs, on étudie ça non seulement en économie comportementale, mais aussi en neurosciences. Donc, par exemple, on regarde en imagerie cérébrale, qu'est-ce qui se passe? On vous propose par exemple 10 euros aujourd'hui ou 15 euros dans un mois, par exemple. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, il y a beaucoup de gens qui choisissent 10 euros, qui est un comportement assez étonnant quand même, parce que vous imaginez le taux d'intérêt qui est impliqué par 5 euros en un mois, c'est quand même énorme. 50% en un mois, c'est quand même énorme. Si vous trouvez ce genre de placement, vous m'avertissez. Donc, c'est quand même... Là, on voit un exemple d'irrationalité, même chez des gens qui n'ont pas de contrainte de liquidité, qui prennent les 10 euros aujourd'hui plutôt que d'avoir les 15 euros dans un mois. Mais on voit aussi qu'est-ce qui s'active dans le cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça correspond à une activation dans le système limbique, qui est un système qui existe chez les animaux et qui est très développé chez les animaux, alors que l'image des 15 euros demain s'active dans le cortex préfrontal, qui est beaucoup plus spécifique au développement humain. D'accord ? Alors, la neuroéconomie, je dois vous dire tout de suite, est un sujet absolument passionnant. Il se passe des tas de choses en ce moment. On n'en est pas encore à un stade... Parce qu'on voit, on regarde quelle zone du cerveau s'illumine, mais on n'en est pas encore à un stade où on peut dire, voilà, ça change l'économie, ça change les recommandations qu'on va faire, parce qu'on est aussi amené en tant qu'économiste, évidemment, à faire des recommandations pour la politique publique, par exemple. Et donc, est-ce que nos recommandations ont changé beaucoup grâce à la neuroéconomie? Non, la réponse est non. Est-ce qu'elles changeront dans 20 ans? Oui, peut-être. Et c'est ça qui rend les choses passionnantes. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'autres comportements qui sont étudiés actuellement par les économistes. Donc, la formation et la révision imparfaite des croyances, un autre problème d'irrationalité, en quelque sorte. Donc, une mauvaise compréhension de la word by, par exemple, un optimisme excessif, toutes les questions de mémoire sélective, d'auto-manipulation des croyances, c'est quelque chose sur lequel, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Roland Benabou. Les problèmes de comportements prosociaux et d'altruisme, et ça, on en parlera plus tard. Puis après, il y a le rôle des émotions, la confiance dans les autres, etc. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent. Il y a un an, on avait une conférence à Toulouse sur le biais d'attention. Donc, c'était une conférence avec des économistes, des psychologues, des sociologues, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Alors, je vais en choisir une. Hein. Je n'ai pas le temps, en une demi-heure, évidemment, de parler de beaucoup de choses. Et je voudrais parler des comportements prosociaux qui ne sont pas vraiment prévus dans l'économie classique. Après tout, regardez ces comportements. Nous donnons à des organisations caritatives. Nous investissons dans des fonds socialement responsables. On peut acheter des produits de commerce équitable. On va voter, ce qui ne sert strictement à rien d'un point de vue individuel parce qu'on ne sera jamais pivot dans une élection. C'est la probabilité que vous changiez le résultat de l'élection est vraiment très 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 proche de zéro. Ça ne justifiera jamais le fait que vous allez passer un quart d'heure pour aller voter. Vous donnez votre sang, parfois vous risquez même votre vie. Donc, c'est des comportements qui, d'un point de vue du bien-être personnel, ne sont pas forcément optimaux. Il y a des coûts personnels sans contrepartie matérielle. Alors, pourquoi faisons-nous ça? Vous allez dire, mais c'est pas très compliqué. Les préférences sont pas seulement matérielles. On s'intéresse pas seulement à notre revenu, on s'intéresse pas seulement à notre temps. On s'intéresse aussi aux autres. C'est-à-dire, il y a une internalisation du bien-être des autres. Mais je voudrais essayer de vous convaincre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Effectivement, si vous internalisez mon bien-être, peut-être, vous allez peut-être m'aider dans certaines circonstances, si ça ne vous coûte pas trop cher et ça m'aide, vous allez m'aider, bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je voudrais essayer de vous convaincre de ça. Voilà, donc l'exemple typique d'expérience qu'on fait pour montrer effectivement l'existence d'altruisme, c'est ce qu'on appelle le jeu du dictateur. Donc c'est un jeu très simple qui a été testé en laboratoire des milliers de fois dans différents pays, où un individu choisit entre A et B. Donc il y a deux décisions. S'il fait le choix A, donc il fait ça en laboratoire, sur son ordinateur, s'il fait le choix A, il obtiendra 6. S'il fait le choix B, il obtiendra 5. Mais il y a une autre différence entre les deux choix qui est que ça va influer sur le payoff, sur le bénéfice de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est anonyme d'ailleurs. Tout ça, ça se passe en laboratoire. Donc l'autre personne ne saura jamais que c'est vous qui avez fait ça, par exemple. Donc il n'y a pas de phénomène de réputation sociale. C'est pas simplement que vous voulez éviter de froisser un ami, etc. Non, c'est pas du tout ça, puisque c'est fait en laboratoire, c'est complètement anonyme. Mais vous avez simplement le choix entre prendre 6 pour vous et donner 1 à l'autre, ou prendre 5 pour vous et donner 5 à l'autre. Donc il y a une action égoïste et une action généreuse, en quelque sorte. Parce que l'action généreuse, ça vous fait perdre quand même 1. D'accord ? Vous passez de 6 à 5. Alors, dans une expérience typique, mais ça varie, hein, mais disons, il y a les 3/4 qui vont choisir l'action B. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas une maximisation du bénéfice de la personne. La personne se comporte de façon altruiste, un peu. Au moins 3/4 des gens, il y a beaucoup d'hétérogénéité d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer. 3/4 des gens vont choisir l'action B, qui est l'action généreuse. Alors, pourquoi, me direz-vous? Ben, essayez de faire un peu d'introspection. D'accord. Alors, mais prenons l'hypothèse simplifiée que c'est simplement de l'altruisme, c'est-à-dire que vous accordez un certain poids au bien-être de l'autre, et donc bon, si ça vous coûte pas trop cher, et si ça vous coûte qu'un, vous êtes prêt à faire un effort pour faire gagner 4 à l'autre. D'accord. Donc vous êtes un peu altruiste. Alors je voudrais vous convaincre que c'est plus complexe, comme je l'ai dit, et que la générosité, et c'est vraiment important si on veut monter par exemple des campagnes pour des ONG ou d'autres choses, c'est un phénomène plus complexe. C'est pas de la générosité pure souvent, c'est une volonté de paraître et la création d'une bonne image de soi. Et d'ailleurs, c'est pas seulement, comme je le disais, un phénomène social, puisque dans les expériences précédentes, c'est complètement anonyme. C'est en fait vous qui voulez avoir une bonne image de vous-même. D'accord ? Comment on sait ça ? Ben, prenons quelques défis à la théorie. Dans un musée, ou quand on donne à un musée ou à une université, enfin, je sais que dans ce pays, on ne donne pas beaucoup aux universités, à l'alma mater, mais 1% seulement des dons sont anonymes. Mais qu'est-ce qui est plus beau qu'un don anonyme, justement? On dit toujours un don anonyme, c'est quand même très beau, mais en fait, pratiquement aucun don n'est anonyme. Ou alors, par exemple, quand vous avez aussi ces études, vous avez des catégories, vous avez la catégorie argent, or ou quelque chose comme ça, quand vous êtes donateur, donc si vous donnez au moins 500 euros, vous avez tant, vous êtes dans la catégorie argent, si vous donnez 1000 euros, au moins 1000 euros, vous êtes dans la catégorie or, et vous regardez où sont les donations, ben elles sont toutes à 500 et 510 euros, ou à 1000 et 1010 euros, donc c'est quand même intéressant, c'est clairement pas complètement désintéressé. Alors, de façon peut-être plus intéressante encore, il y a cet article qui est paru il y a 6 ans sur une variation du jeu du dictateur. Donc, vous regardez le premier état de la nature, il y a 2 états de la nature et qui est probable. Le premier état de la nature, c'est exactement la décision précédente. C'est-à-dire que si vous choisissez l'action A, vous appuyez sur la touche A sur votre ordinateur, vous avez 6 et l'autre a 1. Si vous choisissez l'action B, vous avez 5 et l'autre a 5. Mais il y a un deuxième état de la nature où, pour simplifier, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que si vous choisissez A, vous aurez 6 et l'autre à 5, et si vous choisissez B, vous aurez 5 et l'autre à 1. Donc là, il n'y a pas photo, il faudrait choisir A, puisque vous bénéficiez aux deux parties. Et on posait la question aux gens, voulez-vous apprendre gratuitement l'état de la nature, si vous êtes à gauche ou à droite? D'accord ? Alors, rationnellement, un agent rationnel dirait, ben, moi, je vais être informé pour prendre la bonne décision. Par exemple, si je suis généreux, ben, je vais prendre l'action B dans le premier état, mais dans le deuxième état, je prendrai l'action A. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, personne ne veut savoir. Personne ne clique sur le bouton disant, je veux savoir l'état de la nature. Et qu'est-ce qu'ils choisissent? l'action A. D'accord ? C'est-à-dire que les gens, dans cet état-là, même les gens généreux qui autrement auraient choisi B, disent « je ne veux pas savoir l'état de la nature » et choisissent l'action A, c'est-à-dire l'action égoïste. Donc ça pose un problème pour notre compréhension de la générosité. Parce que d'une certaine manière, ils ont une fausse excuse de ne pas savoir, parce qu'après tout, il y a un autre état qui est possible dans lequel l'action A ne serait pas l'action égoïste. D'accord ? Donc c'est tout à fait intéressant comme comportement. Il y a beaucoup d'expériences faites par les économistes sur le rôle de la mémoire, des choses tout à fait surprenantes, enfin qui vous surprendront peut-être pas tellement, mais qui est par exemple sur la tricherie. Donc on regarde est-ce que les gens trichent ou trichent pas dans une expérience. Ils peuvent prétendre avoir tiré une meilleure carte qu'une autre, par exemple. Et si par exemple on lit le code d'honneur de l'université juste avant l'expérience, ben les gens trichent moins, d'accord? Il y a toutes ces expériences qui disent que quand de Monin et Miller, Monin c'est un Français qui est professeur de psychologie à Stanford, que si on a fait quelque chose de bien, après on se permet de faire quelque chose de mal. Donc par exemple, on a pris une action qui n'était pas raciste, et après on se permet effectivement d'avoir des propos racistes. C'est tout à fait intéressant du point de vue de la psychologie des gens. Et donc, et cette dernière expérience de Monin aussi de ses côtés est tout à fait passionnante. On n'aime pas les saints. En fait, c'est vrai qu'on dit toujours on veut avoir des gens qui sont vertueux, mais des gens qui sont trop vertueux, on ne veut pas les avoir, en tout cas pas les avoir autour de soi. Parce qu'évidemment, le benchmarking est terrible. Quand on a des gens qui sont trop honnêtes et trop vertueux, ça devient insupportable pour soi-même. Et donc, il y a des expériences, mais réelles, dans lesquelles, effectivement, si les gens se comportent trop bien, ils sont ostracisés par les autres personnes du groupe. Donc c'est quand même assez étonnant tous ces comportements, donc il faut réfléchir. Alors pourquoi l'économiste s'intéresse à ça? Ben, d'abord, on veut essayer de comprendre, quand par exemple on donne des incitations aux gens, que ce soit des incitations aux hommes politiques, des incitations aux dirigeants d'entreprise, ou à qui que ce soit, ou même à vous-même, quand on met une taxe carbone, par exemple, ou ce genre de choses, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir des effets d'éviction dans lesquels, par exemple, donner des incitations, ça peut avoir des effets contre-productifs? Concevoir des politiques publiques, encourager des comportements pro-sociaux. J'étais ce matin à une conférence sur l'investissement socialement responsable, et c'était un grand sujet, effectivement, ce genre de choses. Voilà une question, peut-être qu'on aura le temps d'y répondre, je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux subventionner une voiture hybride ou une chaudière efficace qui va générer assez peu de CO2? Voilà, essayer d'y réfléchir, c'est une question intéressante. Comprendre l'investissement socialement responsable, etc. etc. Donc, sur l'incitation à adopter un comportement coopératif ou altruiste, Nous avons fait des travaux avec Roland Benabou, où nous avons juste supposé que l'adoption d'un comportement altruiste ou coopératif est générée par trois facteurs. D'abord, la motivation intrinsèque pour le faire, c'est-à-dire qu'on a une certaine générosité. La motivation extrinsèque, qui peut être des incitants financiers, par exemple, effectivement, c'est sûr que si je suis subventionné pour ma voiture hybride, j'aurai plus d'incitation à me comporter de façon propre. Et puis l'image. Et c'est l'image, l'aspect nouveau de cette théorie, qui est finalement l'image vis-à-vis des autres, et comme je disais, vis-à-vis de soi-même. C'est très important aussi la vision qu'on a de soi-même. Ça date d'Adam Smith et évidemment des philosophes grecs. C'est tout à fait important. Et là, c'est un modèle totalement théorique, où on avait regardé qu'est-ce qui se passe quand on augmente les incitations à se comporter bien. D'accord? Donc on subventionne les comportements prosociaux. Alors on part de zéro, puis après on augmente la subvention aux comportements prosociaux. Quand on change l'intérêt que porte l'individu à son image personnelle, on a des phénomènes tout à fait intéressants. C'est-à-dire que quand on ne s'intéresse pas à son image personnelle, on se comporte exactement comme Homo economicus. C'est-à-dire que si on augmente les incitations à bien se comporter, les gens se comportent mieux. D'accord. Donc c'est vraiment le béaba de l'économie. Le premier cours d'économie, vous augmentez l'incitation, vous augmentez l'offre. Mais au fur et à mesure qu'on augmente l'intérêt que les gens portent à leur propre image, on a des phénomènes très bizarres. Et en particulier, on a des phénomènes qui ressemblent beaucoup à ce que décrivent les psychologues. Et au bout d'un certain moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une zone dans laquelle vous augmentez les incitations, il y a de moins en moins de comportements prosociaux. Vous commencez à payer les gens, par exemple, pour donner leur sang, et ils donnent moins leur sang. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe simplement un phénomène tout à fait, là, je dirais, rationnel, qui est que, en fait, une partie des comportements prosociaux qu'on a, c'est pas seulement de la motivation intrinsèque, mais c'est aussi un phénomène d'image. On veut prouver évidemment aux autres que nous sommes des gens décents, mais aussi on veut se prouver à soi-même. On veut pouvoir se regarder dans un miroir, et donc on veut se prouver que nous sommes des gens bien. Quand on commence à augmenter les incitations, il y a un problème d'inférence qui se pose, à savoir est-ce qu'on adopte ce comportement prosocial parce qu'on est vraiment généreux ou simplement parce qu'on veut la récompense qui va avec. Et donc il y a un problème d'inférence qui se pose et on peut tuer, au moins sur une certaine zone, on peut tuer l'effet incitatif et le rendre contre-productif parce que ça devient peu clair pourquoi les gens le font. Donc si on ne donne pas d'incitation monétaire, c'est clair qu'ils le font parce qu'ils sont généreux. Mais par contre, si on commence à donner des incitations monétaires, ça devient moins clair. Et ça, ça a été testé par Dana Ariely. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être lu son livre. C'est un psychologue qui est assez connu et qui a écrit ce livre en particulier. Et avec des co-auteurs, il a testé le modèle qu'on avait écrit avec Roland Benabou. Et il avait testé deux prédictions du modèle. Tout d'abord, qu'il y a plus de prédictions quand on est observé par ses pairs. D'accord ? C'est-à-dire que là, l'équation mathématique dit simplement que quand on est observé par ses pairs, il va y avoir plus d'offres de comportements prosociaux. Alors ça, il le vérifie, mais ça avait été vérifié des tas de fois avant, c'est évident. Si vous êtes observé par vos amis, votre famille, etc., vous allez vous comporter en général mieux que si vous êtes que dans une ville étrangère, etc. Et c'est quelque chose qui a été testé des dizaines de fois par les économistes et d'autres disciplines. De façon plus intéressante, ils ont testé une application sur la dérivée croisée. C'est-à-dire que l'effet des incitants sur l'offre de comportements prosociaux va être plus faible quand on est observé par ses pairs. D'accord ? Donc, ils regardent en laboratoire la participation à une bonne cause dans des conditions soit d'anonymat, soit d'observation par les pairs. Donc là, on peut anonymat, c'est qu'on est derrière un ordinateur, mais autrement, observation par les pairs, on est observé, ce qu'on fait est observé par les pairs. Et effectivement, on voit beaucoup plus d'effets dans la situation d'anonymat, et quand on est observé par des incitations, mais quand on est observé par les pairs, cet effet de surjustification fait que les incitations ont beaucoup moins de puissance. Donc l'application de ça, et c'est cité dans les travaux d'Ariely et de ses co-auteurs, c'est que par exemple, il vaut beaucoup mieux subventionner une chaudière propre qu'une voiture hybride. Une voiture hybride, évidemment, vos voisins, votre famille savent que vous avez une voiture hybride. D'accord ? Tandis que la chaudière propre, j'imagine, à moins que vous fassiez des parties dans votre cave, ça m'étonnerait que vos voisins sachent que vous ayez une chaudière propre. Donc, ça, c'est le genre d'implication qui ressort de cette théorie. Et donc, la théorie a été testée empiriquement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'expérience, bien sûr, il faut en faire d'autres. Alors, j'imagine que Priscilla va me dire que c'est bientôt terminé. Donc, je vais vous dire un petit peu, je n'ai pas le temps de continuer là-dessus, mais quelques sujets sur lesquels on travaille actuellement, juste pour vous dire, et c'est uniquement ce que je suis en train de faire avec Roland Benabou, qui donc est un chercheur de Princeton, mais il y a beaucoup d'autres chercheurs que nous qui font des choses tout à fait intéressantes dans différents domaines de l'économie comportementale. Donc, nous, on travaille par exemple sur le lien entre le droit et les normes sociales, basé sur des idées assez similaires. On travaille sur des problèmes d'identité. Donc, nous avons publié sur des questions d'identité. L'identité, c'est aussi un phénomène très intéressant. C'est un phénomène dans lequel on se définit par ses propres actions. D'accord ? Donc on essaie de se prouver qu'on est, fait partie de telle communauté, qu'on a ces, telles idées, etc., ou telles valeurs religieuses, peu importe, par la biais d'actions. Et ça a vraiment beaucoup d'implications. Un autre sujet qui nous passionne en tant qu'économiste, c'est le problème des tabous. Les économistes passent la plupart du temps, les économistes passent la plupart du temps, de leur temps finalement, à analyser des marchés qui ne marchent pas, puisque les marchés qui marchent, par définition, c'est pas très intéressant. Et donc, nous passons pratiquement toute notre vie à étudier les défaillances de marché et à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les défaillances de marché. Les autres sciences sociales et les religions aussi, disent, ben non, il n'y a pas que des défaillances de marché, il y a des marchés qui ne devraient pas exister par principe. Non pas qu'ils soient mauvais, la façon dont ils sont organisés, etc., mais par principe, ils ne devraient pas exister. Donc, par exemple, l'adoption, les problèmes de don d'organes aussi, c'est important. L'idée qu'on ne peut pas se faire payer pour donner un des organes, qui est un sujet très controversé d'ailleurs, parce que, évidemment, les gens, par exemple, ne donnent que très peu leurs reins. Donc, il y a énormément de gens qui meurent simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir de greffe. Donc, les gens donnent des reins quand c'est quelqu'un, évidemment, de la famille. Mais en dehors de la famille, en général, ils ne le font jamais. Bon, c'est vraiment très coûteux, évidemment. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on devrait... Certains économistes ont posé la question, est-ce qu'on devrait payer, effectivement, pour des dons de reins, puisque, effectivement, c'est très coûteux. Voilà, c'est une question qu'on se pose. Mais là, on peut continuer. Les mères porteuses, la prostitution, les marchés de vote, services militaires... l'esclavage, après tout, nous avons tous des opinions comme quoi ça, c'est une mauvaise idée. Alors évidemment, l'esclavage, on parle d'esclavage volontaire, pas de l'esclavage involontaire, ça va de soi, les dogmes religieux, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles Durkheim avait beaucoup travaillé, mais les économistes et les psychologues travaillent énormément. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant, d'autant plus que nos comportements contredisent complètement nos croyances. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde vous dira, une vie, ça n'a pas de prix. Évidemment, ça n'a pas de prix. Seulement, tous les jours, vous faites des arbitrages qui mettent un prix sur la vie de vos enfants. Vous achetez une voiture qui est ça, plutôt qu'une voiture qui est 5000 euros plus chère, mais plus sûre. Donc, vous mettez un prix sur la vie de vos enfants. Un hôpital fait des centaines de choix qui mettent un prix sur la vie tous les jours. Plus d'argent dans ce service plutôt que dans tel autre, c'est clair qu'on met un prix sur la vie. Mais par contre, on n'a pas le droit de dire que la vie a un prix. D'accord ? La vie n'a pas de prix, c'est bien connu. Donc, il y a une espèce de tabou là qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, les procès sur la sécurité automobile aussi sont tout à fait passionnants à étudier de ce côté-là. Et la question, c'est pourquoi ? Et donc, le genre de choses, de questions qu'on se pose, c'est pourquoi on a ces tabous ? Est-ce que ces tabous sont justifiés socialement ? Et parfois, ils le sont. Parfois, ils ne le sont pas. Quelles sont les implications pour la vie publique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sortent très nettement du domaine classique de l'économie. Alors, les économistes sont peut-être impérialistes, donc ils vont aller essayer d'apporter des réponses à ça. Je ne pense pas qu'ils devraient travailler tout seuls. Évidemment, ils devraient travailler avec leurs collègues d'autres disciplines des sciences sociales et humaines. Bon, on essaie de faire ça avec, Priscilla a mentionné l'Institut d'études avancées à Toulouse, qui travaille beaucoup d'autres disciplines. Il y a beaucoup d'autres gens qui le font et c'est vraiment tout à fait important. Donc ça va vraiment être un des grands chantiers en économie et dans les sciences sociales plus généralement au XXIe siècle, ça serait d'unifier un peu toutes nos théories, puisque effectivement ce sont exactement les mêmes individus et les mêmes groupes que nous étudions. Merci.
Merci beaucoup. C'est passionnant. Comportement d'entre vous. Alors, on va prendre une ou deux questions, et s'il y a des questions dans la salle, et sinon les échanges peuvent se poursuivre, voilà, en dehors de l'amphithéâtre. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour. Moi, j'avais pas compris quand vous avez montré le jeu du dictateur qui était modifié, et du coup, on avait A, B et AB, et j'ai pas compris.
Vous pourriez le remettre ?
Et j'ai pas compris quand vous avez dit voulez-vous savoir l'état de la nature, c'est quoi l'état de la nature ?
C'était de savoir si on était à gauche ou à droite. C'est-à-dire, voilà, le dictateur modifié, voilà. Non, ça c'est le dictateur. Voilà, le dictateur modifié. Donc, on peut être soit dans cette situation ici, le premier état de la nature dans lequel A et B vont avoir ses conséquences en termes de bénéfices, ou cette deuxième état de la nature où ils auront des conséquences différentes. C'est-à-dire que Dans les deux cas, on peut choisir A et B. On n'a pas besoin de connaître l'état de la nature pour choisir A ou B. Mais par contre, les conséquences sont différentes. Donc, dans le premier état de la nature, si vous choisissez A, ça va être une action égoïste. Dans le deuxième état de la nature, simplement, si vous choisissez A, c'est l'action qui bénéficie à tout le monde et qui devrait être choisie de toute façon. Donc la question, c'est est-ce que vous voulez connaître les bénéfices qui sont attachés à chaque action avant de prendre vos décisions? Et donc, quelqu'un de rationnel devrait dire oui. Comme ça, je prendrai une meilleure décision. Donc, par exemple, si je suis généreux, je devrais choisir B dans le premier état de la nature, et dans le deuxième état de la nature, je devrais choisir A. Mais ça montre le fait que je ne veuille pas connaître l'état de la nature et que je choisisse A. Ça prouve un peu aussi un certain égoïsme, d'une certaine manière. C'est exactement le même comportement qu'il y a. Je sais qu'il y a un clochard dans la rue. Je sais que si je passe devant lui, je me sentirai obligé de lui donner de l'argent. Et je passe dans la rue d'à côté ou sur le trottoir d'à côté. Je refuse. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Les gens, par exemple, il y a beaucoup d'expériences comme quoi les gens qui se sentiraient obligés de donner font exprès de ne pas être là le jour où il y a quelqu'un qui leur sollicite une donation, par exemple. Ou alors, les gens ne s'inscrivent pas à des registres de dons d'organes, sachant qu'ils peuvent toujours refuser ex post, mais ils ne veulent pas être dans une situation où ex post, ils refuseraient si on leur demandait de le faire. Il y a beaucoup de ces comportements qui ressemblent beaucoup à ce jeu-là. C'est pour ça que ces économistes, ce sont des économistes dans le cas particulier, ces économistes ont étudié ce jeu-là, qui est absolument passionnant, pour un peu déprimant aussi sur notre façon de réfléchir, mais qui est absolument passionnant pour comprendre comment fonctionne notre cerveau aussi.
Merci.
Une question là-haut.
Vous avez parlé d'altruisme, mais en définitive, parce que ça se ramène à une question d'image pour soi, vous regardez, on dirait plutôt que c'est du narcissisme. Il y a la compassion
Alors si, elle existe quand même, c'est-à-dire que ce que je disais, il y a quand même le premier motif qui est la motivation intrinsèque, ce que vous appelleriez la compassion. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une certaine générosité en soi, qui est très hétérogène entre les individus, et qu'on ne connaît d'ailleurs pas toujours très bien soi-même. On a quand même une certaine compassion. Donc, pour pouvoir effectivement jouer sur sa propre image, il faut quand même qu'il y ait un grain de vérité derrière. Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même une possibilité qu'on soit vraiment généreux, si on veut arriver à se convaincre qu'on est généreux, ou si on veut arriver à convaincre les autres qu'on est généreux. Donc, ce que dit ce modèle, d'une certaine manière, et ce que dit aussi la réalité, c'est que il y a de la générosité, de la vraie générosité, mais il y a aussi toute une partie de la générosité qu'on observe qui n'est pas de la générosité, qui est effectivement du narcissisme. On veut projeter aux autres une bonne image de soi-même, on veut projeter à soi-même, et ça Adam Smith en avait beaucoup parlé, on veut projeter à soi-même une bonne image. On veut pouvoir se regarder devant un miroir.
Alors, bon, une dernière question, madame, devant. Si quelqu'un peut passer le micro. Oui. Voilà.
Merci. Ben justement, concernant le jeu du dictateur, finalement, le premier, le simplifié, oui. Le plus rentable économiquement, c'est quand même...
Oui.
C'est quand même je suis généreux, 5-5 pour l'autre et pour moi, non?
Oui. Là, effectivement, le comportement dans le jeu dictateur simple, le comportement généreux, c'est de choisir l'action B, puisque ça donne plus à l'autre et moins à soi-même. Donc on fait un sacrifice de son bénéfice.
Oui, mais si peu moins à soi-même que 5 plus 5, ça fait 10, c'est
quand même, oui, alors, ça veut...
quand même hautement rentable, voilà. Pour tout le monde.
Alors voilà, la question, c'est est-ce qu'on met autant de poids à l'autre personne qu'à soi-même?
Sauf donc, si c'est pour la société.
Alors,
en général.
Je pense qu'en général, on met moins de poids sur les autres que sur soi-même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement égoïste non plus. C'est-à-dire que s'il y a un sacrifice qui est assez faible, on est prêt à le faire. D'accord. Donc il y a quand même, nous sommes tous égoïstes, mais nous ne sommes pas tous complètement égoïstes non plus. Mais on met en général pas autant de poids sur les autres que sur soi-même. D'accord. Je connais personne très peu de personnes, par exemple, vont payer 3 fois plus d'impôts qu'ils doivent payer parce que ça bénéficie à la société. C'est pas ça. Ils essaient de minimiser leur impôt en général. Donc là, on voit très bien les limites de la générosité. Il y a pas les gens mettent plus de poids sur eux-mêmes que sur les autres. Ça, c'est clair.
Merci. Bon, merci beaucoup à Monsieur Tirole pour son intervention passionnante.